Bien, nous allons commencer une discussion sur certains points qui ont été abordés par Michel Redé, un peu dans la continuation des discussions qui nous animaient sous la tente. Il a eu, en quelque sorte, la bonne idée de montrer cette photo quelque peu ébouriffante. et donc, effectivement, nous n'avons jamais cessé de dialoguer sur ces questions. Et après l'exposé qu'il vient de présenter, je souhaiterais lui poser quelques questions plus particulières. Je me suis intéressé, vous en avez vu un aperçu lorsque j'ai présenté les fouilles d'efforts de la route de Myos-Hormos, à la question de la transition des forts, enfin de l'architecture des forts entre la période ptolémaïque et les premiers forts de l'époque romaine en Égypte. Et donc je voudrais lui poser la question, connaît-on suffisamment bien les forts de la dernière période ptolémaïque et pour voir comment ils sont transformés par la suite ou remplacés? Et est-ce qu'il y a une importation des modèles de l'armée romaine, tels qu'ils sont connus ailleurs, notamment en Occident, dans l'Égypte après la conquête?
Il y a deux questions en une. Donc, à la première réponse, à la première question, je ne sais pas répondre parce que on connaît très très mal les architectures de la dernière période ptolémaïque et en particulier pour cette région. On n'a jamais fouillé en réalité de fortins identiques pour l'époque ptolémaïque. Donc, ni d'ailleurs là, ni vraiment ailleurs, sauf dans des contextes très, très, très éloignés de celui-ci. Et ce qui caractérise finalement peut-être l'architecture défensive ptolémaïque, ce sont plutôt des principes défensifs que des canons architecturaux aussi standardisés que ceux que l'on peut connaître dans l'armée romaine, surtout pour la fin du 1er siècle et le 2e siècle. Donc, pour répondre à la question de la transition, je ne la connais pas, on n'a pas les éléments pour répondre. Et pour ce qui est de l'importation de canons spécifiquement romains à l'intérieur de militaires romains à l'intérieur de l'Égypte, il n'est pas très facile de répondre puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette architecture ici est singulière. En revanche, ce qui est bien caractéristique de l'armée romaine, c'est l'idée d'un modèle répétitif avec des formes, des systèmes défensifs, des tailles, un certain nombre de critères que l'on pourrait lister et qui sont répétés de manière générale sur l'ensemble de ces pistes, même si d'un poste à un autre, on trouverait la même chose en Occident, le dispositif interne stricto sensu n'est pas exactement copié d'un point d'un fort à un autre. Donc, on est à la fois dans une assez grande homogénéité architecturale, sauf pour le modèle des carrières qui est différent, et en même temps dans une grande variété de détails qui est, dont l'initiative est toujours laissée à l'architecte local. Mais le principe est fondamentalement différent de celui de ceux que l'on peut connaître pour l'époque ptolémaïque.
Est-ce que, par exemple, la présence de tours aux angles, les tours saillantes, est une caractéristique de ces fortifications par rapport aux fortifications antérieures? Je ne crois pas que dans les forts ptolémaïques qui sont connus à l'heure actuelle, on ait ce genre de dispositif.
C'est une caractéristique, ou c'est une exception, plus exactement, c'est une exception par rapport à tout ce que l'on connaît de l'architecture militaire romaine des 1er, 2e et 2e siècles. Le principe des tours saillantes est évidemment connu depuis très longtemps, bien avant l'époque romaine. Il est constamment pratiqué dans les fortifications urbaines ou militaires ptolémaïques. On connaît d'ailleurs mieux les fortifications urbaines que les fortifications militaires de cette période. Il est pratiqué, bien entendu, dans les fortifications urbaines d'époque romaine. Vous voyez les portes de Nîmes, vous voyez les portes d'Autun, par exemple, celles de Cologne. Donc c'est assez facile, il serait facile de répertorier une liste, mais il n'est jamais utilisé dans l'architecture militaire romaine de cette période, sauf justement dans ces cas bien particuliers du désert oriental d'Égypte. C'est ce qui en fait à la fois une exception, mais une exception qui a trompé au début, en raison justement du fait que ces caractéristiques sont celles qui apparaissent seulement, normalement, à partir de la fin du 3e siècle, début du 4e siècle. Voilà.
Et pour en revenir au cas du fort de Seyala, pour lequel j'ai beaucoup de regrets, puisqu'on n'a pas suffisamment fouillé pour véritablement le comprendre, est-ce que le fait qu'il n'ait pas de tour saillante aux angles pourrait être une caractéristique ancienne, c'est-à-dire pourrait le faire remonter soit à la période ptolémaïque, soit au tout début de la période romaine?
Peut-être, mais je renvoie à la première proposition, on n'a pas suffisamment fouillé. Donc, nous n'avons que des éléments qui sont trop peu nombreux pour faire système.
Et donc, si on se place dans la période qui suit immédiatement la prise de possession de l'Égypte par Rome, est-ce que, donc, on en revient à la fois à la fameuse inscription porte 56, que tu as tendance à penser être nettement postérieure à ce qu'on avait imaginé jusqu'à présent, cette inscription renverrait à un certain nombre d'installations qui équipent déjà la route de Bérénice, et notamment, je pense, aux citernes qui sont creusées à Campasie et à Apollonos. Est-ce que tu pourrais mieux préciser ton point de vue sur la datation? Personnellement, j'ai l'impression, et je crois que tu es d'accord, ça nous renvoie de toute façon à la période antérieure, à la période de Vespasien, et plutôt, disons, à l'état de la route telle qu'elle était sous Pline. Mais est-ce qu'on arriverait à mieux cerner cette datation en l'absence, malheureusement, de fouilles à Campasie et à Apollonos?
C'est une inscription qui a été énormément commentée. Il y a une littérature très abondante sur celle-ci, et moi-même, je n'ai jamais rien écrit sur la question. Et je ne me suis jamais penché de manière très approfondie sur sa datation. Bon. Du point de vue strictement épigraphique et du point de vue de l'histoire militaire, c'est une inscription qu'on situe entre, disons, la fin de l'époque augustéenne, au plus tôt, et l'époque de Trajan, au plus tard. Pourquoi ? Parce que nous avons là des vexillations, donc des détachements, des deux légions égyptiennes, et nous savons que sous Auguste, jusqu'à une date difficile à préciser, sans doute la fin du règne d'Auguste, mais on ne sait pas très bien quand, il y avait trois légions initialement. Donc ensuite, il n'y en a plus que deux. On considère que c'est un terminus postquem pour dater cette inscription. Et à partir, de la conquête de la Nabatène, c'est-à-dire grosso modo de l'actuelle Jordanie, sous Trajan, ou peu après, il n'y en a plus qu'une. Bon, donc ce sont les deux éléments. L'élément qui tend à faire remonter la datation de l'inscription, c'est la proportion importante de noms galates dans les listes des légionnaires. Alors, nous savons que l'une des deux légions, la 22e, la légion des Jotariennes, était en réalité l'héritage d'une, c'est par son nom, d'une unité envoyée, d'une unité qui était en quelque sorte d'un royaume client de l'Empire, le royaume de Vegetarus, qui avait combattu aux côtés d'Octavien pendant, à la fin des guerres civiles. Bon. Et donc, on a tendance à faire remonter cette datation, à l'époque tibérienne plutôt que plus tard. Je ne suis pas convaincu que ces arguments soient décisifs, et cette inscription serait du milieu du 1er siècle, que ça ne me choquerait pas en soi. La datation de cette inscription est en fait une crux que nous ne savons pas résoudre aujourd'hui, mais qui a une implication, puisque une implication sur notre compréhension du mécanisme de mise en place de ces fortifications d'Égypte, du désert d'Égypte, parce qu'elle mentionne justement des constructions de postes, ou au moins des installations hydrauliques, de captage, enfin des citernes, dans le désert. Je me demande comment on peut avoir des citernes dans ce désert et des citernes qui soient remplies si on n'a pas de puits à côté. C'est une question sur laquelle il faudrait discuter. Et si on n'a pas non plus de dispositifs pour entretenir ces pluies, c'est-à-dire de dispositifs humains pour entretenir ces pluies. Bon, voilà comment se posent des questions. Donc, seul, archéologiquement, pour l'instant, nous n'avons jamais fouillé ou jamais pu fouiller de véritables postes militaires romains antérieurs à ceux au premier que nous connaissons, c'est-à-dire ceux de l'époque de Vespasien. Il y en a probablement d'autres, donc ceux que tu as cités, Apollonos et Compassi, mais qui sont l'un trop éloigné et trop ensablé et l'autre trop détruit pour que nous puissions aujourd'hui véritablement les fouiller. En tout cas, nous ne les avons pas explorés suffisamment.
Dans le cas de Compassi, on peut quand même être à peu près certain que le puits précède les citernes, puisqu'il y avait à l'époque ptolémaïque indéterminée, mais j'ai l'impression relativement avancée dans le temps, des exploitations d'or avec des laveries qui supposent une certaine abondance d'eau, puisqu'il faut de l'eau pour trier les sédiments. Dans ces conditions, les soldats de la Vexilliation auraient créé une réserve d'eau à côté de ce puits, mais le puits existait déjà. Donc je crois que là, on a en partie la réponse. Mais ça nous amène à la question, et nous ramène sur la route de Myos Hormos, où, précédant le poste fortifié de Zarqa, nous avions trouvé sous le dépotoir postérieur une installation dont nous n'avons pas pu dater l'origine, puisque, comme toutes les installations de cette période, les sols étaient parfaitement nettoyés, mais que nous savons avoir fonctionné jusque sous Néron. Est-ce que tu imagines que ces postes-là pouvaient être non fortifiés comme je l'imaginais, ou est-ce que tu penses que la fortification aurait été détruite?
Je pense qu'on peut faire les deux hypothèses, mais en tout cas, les textes que j'ai cités brièvement sans les analyser, ce n'était pas mon rôle de le faire aujourd'hui, je n'avais pas le temps d'ailleurs, n'indiquent pas qu'il y a nécessairement des fortifications dans les aménagements, les premiers aménagements des routes. On peut en effet imaginer qu'il puisse y avoir un puits, éventuellement une citerne à côté pour stocker l'eau, et une auberge pour les voyageurs. Alors, j'ai passé plusieurs plans, pour revenir si vous voulez une seconde sur ces aménagements, qui sont ce qu'on appelle les hospitalia. Ça a été, c'est plus cadré. Alors là, je ne sais pas que faire. Quel bouton c'est... Non, c'est pas ça. Mais c'est que là. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors, par exemple. Ici, par exemple, nous avons un bâtiment extérieur au fort. Ici aussi, un palacro, un bâtiment extérieur au fort, qui sont en fait donc des auberges pour les voyageurs, donc situées à l'extérieur. Donc j'ai dit que les bêtes restaient hors de l'enceinte. Il est vraisemblable aussi que les voyageurs, au moins une partie d'entre eux, ne pénétraient pas à l'intérieur des forts, restaient à l'extérieur, au moins les caravaniers. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des civils à l'intérieur des forts, c'est autre chose. Il n'y a pas forcément partout, systématiquement, un logement adapté à des caravanes à l'intérieur des forts. On n'a pas non plus forcément partout des hospitalias à l'extérieur, mais on ne les a pas non plus forcément tous retrouvés. Donc on a toute une série de questions qui se posent. Donc, dans le cas que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire celui de Zarqa, on a en quelque sorte ça, tout seul, une série de bâtiments qui sont situés sous le dépotoir du fort qui a été construit plus tard. Rien ne nous interdit, théoriquement, je suis dans l'hypothèse pure, de penser qu'il y avait en effet ceci, plus le puits, et pas l'enveloppe autour et pas le fort autour. Mais ce n'est qu'une hypothèse, évidemment. Une hypothèse dans un premier temps, et qu'on a construit le fort autour du puits. De toute façon, techniquement parlant, il faut d'abord creuser le puits avant de construire le fort. Mais on ne sait pas la relation.
Si on avance un peu dans le temps et qu'on revienne sur la question des sanctuaires, tu avais émis l'hypothèse anciennement qu'il y avait une implantation canonique au fond du fort. L'existence de l'Aedes isolée de Baïsa que nous avons mis au jour par la suite m'en fait évidemment douter. Et est-ce qu'on peut imaginer que, en revenant sur les plans antérieurs et sur une hypothèse que tu avais parfois émise, que les bâtiments isolés qui sont à l'entrée des forts, notamment à Zarqa et à Crocodilo, est-ce que ça pourrait être aussi éventuellement l'emplacement du sanctuaire plutôt qu'au fond du fort? Voilà,
Alors, je vais revenir sur cette dernière partie de la question, puisque c'est une hypothèse effectivement ancienne que nous avions formulée. Bon. Je crois qu'il faut partir intellectuellement pour comprendre la théorie. Il faut partir de ces exemples, et en particulier de celui de Dionysias, ici, qui a très très longtemps été, comme je l'ai dit, le seul poste de cette nature fouillé en Égypte, mais aussi le mieux conservé du monde romain. Donc c'est une fouille qui remonte à la fin, disons en 1950 pour faire court, qui est une fouille franco-suisse, mais qui n'a été publiée qu'en 1967, si ma mémoire est bonne, pour cette partie-là. Et immédiatement, tout le monde s'est emparé de ce modèle, parce que c'était la seule fouille véritable qui existait, et on a souligné donc l'existence de cette allée processionnelle, terme qu'on employait à l'époque, avec au fond donc cette chapelle aux enseignes surélevées et terminée par une abside. Dans ce contexte a joué énormément la comparaison entre ce modèle et celui du palais de Dioclétien à Split, qui est construit exactement selon un canon architectural identique, et dont on sait qu'effectivement, dont on imaginait qu'au fond, il y avait disons, la salle du trône impérial, ce qui d'ailleurs est probablement vrai. Donc, je passe sur les détails pour faire court quand même. Donc, ce modèle a dominé les esprits pendant très très longtemps, et effectivement, on voit qu'il se retrouve ici, par exemple, on pourrait le retrouver dans d'autres cas en Orient, en particulier à Daganiya, en Jordanie. Bien. Et il inspire encore ici cette reconstitution qui est là. Donc c'est à partir de ce modèle, et considérant qu'on avait dans les premiers exemples que nous avons fouillés, c'est-à-dire celui-ci, celui de Zarqa, et face à l'entrée, donc je vais remontrer un plan. Je reviens au début, excusez-moi. Donc on est ici, face à l'entrée, ici, nous avons une pièce qui est plus large que les autres, avec des banquettes latérales, une niche au fond. On a plusieurs dispositifs de cette nature, et donc c'est fort du modèle dominant que j'ai énoncé donc une théorie qui allait dans le même sens. Bon, à partir d'exemples empruntés aussi au désert oriental d'Égypte. Nous avons par ailleurs, de manière systématique, un bâtiment qui est ici, donc directement après l'entrée, et tout près du puits, qui est là. Donc, c'est un type de dispositif que nous retrouvons dans la plupart des fortins de cette région, de ces pistes. Je m'étais en effet posé la question de la fonction, et je me pose toujours la question de la fonction de cet ensemble. Malheureusement, la plupart sont, de ces bâtiments sont en partie, voire totalement détruits, ou presque totalement détruits, il n'en reste plus que des chicots, par l'effondrement sur eux-mêmes des puits centraux, ce qui fait que nous n'arrivons pas à avoir un véritable dispositif de fond. Est-ce que cette pièce-ci, par exemple, était ouverte sur le puits et donc en relation avec le puits, ou bien est-ce qu'elle était fermée et donc face à l'entrée, ce qui, à ce moment-là, en fait un bon candidat de sanctuaire pour ce type d'architecture. Voilà les questions qu'on peut se poser, mais auxquelles je ne sais pas véritablement répondre. Alors, le dispositif que l'on a mis en évidence, que tu as mis en évidence à Beza, pardon de redéfiler tout ça, ça vous permet aussi de les revoir. Le dispositif mis en évidence à Beza ici, ce n'est ni l'un ni l'autre cas. C'est encore un troisième modèle. Comme nous raisonnons sur des toutes petites séries, nous avons beaucoup de peine à être clairs. Et nous n'avons pas non plus, à l'époque, fouillé cette partie qui serait ici face à l'entrée. Nous a semblé trop inintéressante, ou plutôt trop détruite. Donc, voilà les éléments du raisonnement. Donc, ici, on a probablement, en effet, au centre de la cour et dans une position qui ne correspond ni à l'un ni à l'autre des deux dispositifs que je viens de décrire ou des hypothèses que je viens d'énoncer, une petite chapelle. La question est donc complètement différente aussi des chapelles du second état, ou des chapelles reconstruites et qui sont toujours disposées contre les murs et dans une position qui chaque fois est variable. Alors, est-ce qu'il faut aller rechercher un dispositif unique et constant? J'observe que dans tous les petits fortins que l'on connaît en Europe occidentale cette fois-ci, tant sur le mur d'Adrien que sur le limes de Germanie supérieure Réti, la chapelle est toujours en face de l'entrée dans l'axe. Donc, et dans tous les forts plus importants, elle est toujours face à l'entrée dans l'axe. Donc il y a quand même une constante de l'architecture militaire romaine qui va dans ce sens et qui donc appuie la théorie que j'avais construite initialement. Aujourd'hui que nous avons d'autres éléments de réflexion plus importants, il faut probablement, sinon revoir complètement la théorie, du moins revoir son application pour ces fortins d'Égypte. Ce n'est pas exactement la même chose.
Oui, parce que je remarque que dans le cas le plus net que nous ayons, qui est effectivement celui de Beza, nous avons bien entendu deux banquettes, une allée centrale et un socle qui devait supporter les statues. C'est pas tellement différent de ce qu'il y a à Zarqa dans le bâtiment central finalement, puisqu'il y a deux banquettes sur les côtés, il y avait peut-être un socle au fond. Et ce n'est pas tellement différent de ce qu'il y avait aussi à Omra, où il y avait une sorte de construction pas très bien faite, mais avec un socle au fond.
Oui, mais qui est seconde.
Qui est secondaire, mais... qui pourrait donc...
J'y suis retourné récemment, justement, pour revoir ces questions, mais c'est secondaire. Et donc, on a bien observé la première fois. Et je me pose toujours la question, mais je la pose moins aujourd'hui qu'autrefois, compte tenu des dispositifs que nous avons pu observer ces dernières années dans les différents forts de Diovis, de Didymoi, d'Oxéron, par exemple. Je me pose moins aujourd'hui la question de la fonction de ce dispositif d'Umbalade, parce que je pense en effet que c'est une reconstruction secondaire d'une chapelle, sans doute.
Alors, si on en vient justement aux chapelles qui sont reconstruites dans la deuxième phase, aussi bien à Dios qu'à Didymoi, à Didymoi, on comprend bien pourquoi on aurait déplacé le sanctuaire d'une zone très exposée dans une zone qui est à l'abri, plus loin du puits. Mais pourquoi aurait-on fait la même chose à Dios, alors qu'à la même époque, on reconstruit des casernements qui semblent être assez larges en bordure du puits, et donc qui sembleraient indiquer que le puits ne s'est pas effondré, ou en tout cas pas totalement, à cette époque-là. Pourquoi, à ce moment-là, on ramène vers la porte, là encore, et est-ce qu'il y a des parallèles d'une évolution du même type dans des forts en Occident, sur le Limès, par exemple?
On ne connaît pas en Occident de cas de déplacement de chapelle. Je n'en connais aucun. Bon, ça c'est un élément de réponse. Pour ce qui est du dernier cas que tu as évoqué, c'est-à-dire celui de Xérone, quand le puits a-t-il commencé à s'effondrer, quand a-t-il aspiré les constructions et pourquoi on a déplacé la chapelle, ce sont des questions auxquelles je ne sais pas répondre. J'observe simplement que toute une partie, si on va remontrer le plan, toute une partie du dispositif, pardon, c'est avant, voilà, il n'est pas tout à fait complet, mais peu importe, toute une partie de toute cette zone-ci que tu as toi-même fouillée est totalement restructurée, tellement restructurée qu'on ne retrouve plus un seul mur, ou pratiquement plus un seul mur, des architectures primitives. Le seul coin qui laissait encore voir des architectures anciennes, c'était celui-ci, mais avec beaucoup de reconstruction. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par là? Eh bien, je ne sais pas. Je l'ai cherché, mais c'était beaucoup trop détruit ici pour que je puisse véritablement avoir une certitude quelconque. Donc il semble qu'on ne saura pas.
Est-ce que tu avais des traces de quelque chose qui aurait pu être une abside, là encore, comme...
Non. Ceci est trompeur. Ceci est trompeur. Ceci est trompeur parce que c'est un élément... Des termes.
Et ouais, en fait, ce qui me paraît quand même étonnant, c'est qu'on ait trois cas qui fait une véritable série, hein, c'est-à-dire Didymos, Dios et Xérone, où on a le même phénomène qu'on n'arrive pas à expliquer.
On a
une explication claire pour Didymos, puisque le puits s'est effondré, mais est-ce qu'il faut imaginer que ce même phénomène s'est produit partout, et auquel cas il faudrait donc revenir à l'idée qu'il s'agit d'une sécousse tellurique ou de quelque chose comme ça, parce que sinon comment expliquer que tout se soit effondré en même temps?
Oui, mais on est obligé de raisonner avec le matériel que l'on a, et donc on constate des faits, et on constate surtout que dans les trois cas de déplacement, enfin dans les trois cas, on a effectivement une reconstruction sur des architectures antérieures qui ne sont pas des architectures cultuelles, manifestement. Donc ça veut bien dire que la chapelle, qui existait nécessairement, a bien été déplacée. Où était-elle primitivement? Reste une vraie question, mais à laquelle j'ai tenté de répondre, une question qu'il faut aujourd'hui reprendre au vu des éléments nouveaux. Mais on ne peut pas dire que, ni ici, ni à Didymoï, ni à Iovis, elle était en place initialement. Semble-t-il. Mais c'est toi qui as fait la fouille.
Oui. Je voudrais d'ailleurs revenir un petit moment sur le cas de Didymoï, de Dios, pardon, où on a bien vu à la fouille qu'il y avait deux destructions successives du sanctuaire. Peut-être que ce serait mieux de remettre une image. J'avais eu l'impression, étant donné la qualité de la reconstruction finale, avec un beau sol fait de tuiles, de briques, pardon, qu'on ne voit pas sur cette photo, puisque c'est une phase qui est postérieure, mais ce n'est pas grave. J'avais eu l'impression que cette reconstruction avait été faite avec soin et peut-être par l'armée. Je n'ai plus du tout cette sensation aujourd'hui, parce que je ne peux pas imaginer, mais c'est toi le spécialiste de l'armée qui pourra le confirmer, que l'armée ait pu laisser détruire une première fois son sanctuaire à l'intérieur du fort sans réagir. Et donc la reconstruction que je ferai aujourd'hui, c'est qu'il y a eu utilisation continue du sanctuaire entre, disons, l'époque sévérienne et le milieu du IIIe siècle, tel qu'on le voit là, avec quelques aménagements, notamment la construction de bassins ici. Puis le fort a été abandonné. Puis, dans cette période d'abandon, il y a eu une destruction. Alors je ne sais pas par qui, peut-être par les blémis, les population du désert. Et à une époque indéterminée, il y a eu une reconstruction qui a pu être faite très rapidement en utilisant des éléments de remploi. Et il y a eu ensuite une seconde destruction qui, elle, pourrait être due à des premiers chrétiens. Est-ce que cette reconstitution te paraît plus satisfaisante que l'idée qu'il y ait pu avoir une destruction du sanctuaire pendant que l'armée occupait le fort ? Étant donné, bien entendu, qu'on n'a pas d'éléments de datation autre qu'une datation relative, puisqu'il n'y a pas de matériel dans ces niveaux.
Nous raisonnons ainsi peut-être parce que nous pensons qu'un sanctuaire, quel qu'il soit, est un lieu sacré en soi. Ce n'est pas un lieu sacré forcément en soi, et en particulier dans l'Antiquité romaine, c'est un lieu sacré lorsqu'il a été réellement consacré, c'est-à-dire lorsqu'il a été au terme de rite défini comme tel. Bon. Donc quand on reconstruit un sanctuaire, on peut le déblayer très, très largement. On a des quantités d'exemples à Rome même, tout simplement. Donc c'est un premier élément de réflexion. Donc ce qui peut témoigner d'une destruction iconoclaste plutôt que d'une reconstruction, ce sont les coups portés sur les statues, c'est plutôt ça, et non pas le fait que ça puisse être déblayé assez largement pour être reconstruit ou réaménagé. Un sanctuaire peut être réaménagé complètement et même de fond en comble pour y réinstaller un nouveau podium, pour y réinstaller un nouveau baldaquin, pour réinstaller des aigles parce que celles-ci sont en quelque sorte tellement vieilles qu'on a besoin elles sont rouillées, on a besoin de les changer, de les restaurer. Bien. On a quelques exemples de cas comme ceci dans la littérature. Mais ça n'empêche pas qu'effectivement, il ait pu y avoir une période d'abandon, destruction par des pillards quelconques de ces chapelles. On voit bien aujourd'hui que les Bédouins, lorsque nous avons le dos tourné, font des trous partout pour chercher l'or, les trésors qui peuvent exister ou dont ils pensent qu'ils pourraient exister à l'intérieur de ces fortins. Donc un scénario de ce type est tout à fait possible, suivi d'un retour, d'une reprise de possession par l'armée, etc. On hésite entre ces différentes hypothèses et je pense qu'il serait raisonnable, plutôt que d'en construire une seule, de les mettre en parallèle et de les évoquer les unes et les autres.
Oui, ça nous amène aussi à la question également épineuse de la construction, du moment même de la construction de ces chapelles, parce que si on a une idée ou en tout cas un terminus pour des Dumoy avec l'inscription de l'époque de Marc Aurèle, sur laquelle bien sûr nous avons également des doutes, puisque est-ce que ça veut dire qu'on reconstruit la chapelle à l'endroit où elle était à cette époque-là et qu'on la déplace ensuite peut-être sous les Sévères au début du IIIe siècle dans la, à côté de la porte, ou est-ce que cette inscription se rapporte justement à la reconstruction de l'ensemble du fort et donc au déplacement de la chapelle? Quel est ton sentiment aujourd'hui sur cette question que nous avons longuement débattue sur le terrain et que nous n'arrivons pas complètement tranchée malgré les textes?
Oui, là aussi beaucoup de questions, beaucoup d'incertitudes. Alors, ce qui est caractéristique peut-être des dispositifs cultuels reconstruits tels que nous les voyons là, c'est que dans deux cas au moins, nous avons affaire à un culte de Sarapis et pas à un culte d'un Jupiter Optimus Maximus tel que nous pouvons le connaître en Occident, tel que nous n'avons pas d'inscription, et Ovi Optimo Maximo tel que nous pourrions l'avoir en Germanie ou sur le mur d'Adrien, par exemple. Bon. Alors, est-ce que ça signifie que c'est un stricto sensu, un Sérapeion au sens égyptien du terme, ou bien est-ce que ça signifie que c'est un culte à Zeus ou à Zeus, grand Sarapis? Nous avons une inscription de Didymoi, de Jovis, pardon, justement sur Zeus, grand Sarapis, et qui doit être effectivement être prise en compte, et elle est relativement ancienne, manifestement. C'est-à-dire qu'on peut la situer dans la première moitié du second siècle de notre ère. Bien. Donc, je ne suis pas sûr que dès le début, mais pour démontrer ça, il faudrait que je me lance dans une longue étude d'autres inscriptions, d'autres lieux de culte, non seulement en Égypte, mais aussi ailleurs dans le monde romain. Je ne suis pas complètement sûr que cette association entre Sarapis et Jupiter Optimus Maximus, dieu des armées, par définition, soit incongrue, ni inédite. Je suis même sûr du contraire, en réalité. Et en Égypte, elle est, semble-t-il, relativement normale. Mais ça ne donne pas, par construction immédiate, une date pour la reconstruction, la nouvelle édification de ces chapelles. Compte tenu des dispositifs, mais aussi surtout de la stratigraphie dans laquelle, semble-t-il, ces chapelles sont reconstruites à un moment donné, c'est-à-dire quand même dans les dernières phases de l'occupation de ces forts, j'aurais plutôt tendance à situer ces reconstructions vers le début, voire après le premier quart du IIIe siècle de notre ère, c'est-à-dire après l'époque sévérienne, ce qui ne veut pas dire que dès l'origine, il ne pouvait pas y avoir un culte de Jupiter, Optimus, Maximus et de Sarapis liés, ou en quelque sorte confondus. Ce sont deux choses différentes, je crois, qu'il faut distinguer.
Oui, donc tu dissocierais, pour en revenir au cas de Didumoy, la reconstruction de la chapelle à côté de la porte de la phase de grande reconstruction du fort sur l'époque de Marc Aurèle.
Il n'y a rien qui l'impose strictement, mais rien non plus qui l'interdit. Je n'ai pas trop ni dans un sens ni dans l'autre. Donc on peut considérer qu'effectivement cela se situe après la grande reconstruction du fort. Mais si nous la datons de Marc Aurèle, j'ai un peu de peine à croire que l'on aurait reconstruit le fort tel qu'on l'a reconstruit à cette époque-là. Parce que on est quand même à l'époque de Marc Aurèle à un moment où il y a des canons qui s'imposent, et l'espèce de prolifération anarchique que l'on constate dans les derniers niveaux du fort de Didymoy après la destruction de l'abside que nous avons constaté les restes à l'emplacement de ce que j'ai estimé être la chapelle primitive, c'est quelque chose qui pour moi est incompatible avec une datation de la fin du second siècle.
Donc si je reprends l'ensemble de la série, on pourrait imaginer qu'il y a cette phase de reconstruction à Didymoy avec la chapelle au fond, et que le déplacement de l'ensemble des chapelles serait plutôt nettement plus tardive, c'est-à-dire au moins d'époque sévérienne. Et oui. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est une décision d'ensemble ?
On constate qu'il y a à une époque X, probablement dans le courant du IIIe siècle, toute une série de reconstructions successives dans tous ces forts. Est-ce que c'est lié à des événements politiques particuliers, troubles des temps, ou au contraire à une modification en profondeur des structures de l'armée romaine qu'on imagine guère avant la fin du règne de Sévère Alexandre, voire de Maxima, donc pas avant les années 240, voire au-delà. Et est-ce que tout ceci constitue un phénomène qui est homogène et qu'on doit situer chronologiquement à la même époque pour tous ces forts ? Ce sont des questions qui restent posées. Je reviens sur la question de l'abside de Didymoy. La construction d'une abside pour une chapelle aux enseignes, si ma théorie est juste, c'est quelque chose qui ne se situe pas, pour les exemples occidentaux que l'on connaît, avant la fin du second siècle. Donc, si reconstruction il y a, on peut avoir d'abord reconstruction de l'abside dans une position canonique et avec des formes de culte plus classique, et puis ensuite toute une série de modifications qui interviennent peut-être dans les années 240, 250, voire 260. C'est cette période-là que nous voyons le mieux, parce que c'est celle qui est la mieux conservée dans les niveaux supérieurs, qui attire notre attention, mais qui a peut-être une épaisseur chronologique beaucoup moindre que celle de toutes les destructions qui ont eu lieu au préalable et que nous ne voyons plus.
Bien, ben merci de cette précision qui guidera, je n'en doute pas, nos futures publications. Peut-être nous serons plus prudents et nous présenterons plusieurs scénarios possibles et nous nous rendons compte qu'au plus nous connaissons la situation, au plus elle semble être complexe et difficile à démêler. La semaine prochaine, nous accueillerons Charlène Bouchaud qui nous parlera des petites graines et en tout cas de la carpologie, de l'anthracologie qui permet de reconstituer à la fois l'environnement de ces forts, mais aussi grâce à l'étude d'autres dépôts, notamment dans les ports, de reconstituer certains trafics comme celui du poivre. Et la semaine suivante, nous aurons Adam Bülow-Jacobsen qui nous fera la grâce de faire sa présentation en français et non pas en anglais comme ça avait été annoncé, et nous l'en remercions par avance. Merci et à la semaine prochaine.